L'information se poursuit sous le studio Kalangu, tout de suite à Le Journal en français, au micro Nafissa Adam Sirfo. Les titres de ce journal, deux des membres de l'USN, l'Union des scolaires nigériens, incarcérés depuis la semaine dernière, sont libres depuis hier. Ils avaient été arrêtés suite aux violentes échauffourées qui ont suivi l'intervention des forces de l'ordre sur le campus universitaire. Crise universitaire toujours, le ministre des Enseignements supérieurs, Ben Omar, quitte le ministère des Enseignements supérieurs pour celui de l'Emploi. Ce départ était l'un des préalables posés par l'USN pour entamer les négociations avec le gouvernement. Les étudiants et les parents d'élèves se réjouissent de ce remplacement. Enfin, à suivre en partie magazine, un point sur la méningite et la campagne de vaccination de la région de Maradi. Bonsoir à tous. Le ministre des Enseignements supérieurs, Mohamed Ben Omar, quitte son poste. Hier, la télévision nationale a annoncé sa nomination au ministère de l'Emploi et son remplacement par Sadissou Yahouza, qui occupait justement le ministère de l'Emploi. Le départ de Mohamed Ben Omar était l'un des préalables posés par l'Union des scolaires nigériens pour entamer les négociations avec le gouvernement dans le but de trouver une solution à la crise scolaire en cours dans notre pays. L'Union estudiantine a également obtenu la libération de certains de ses dirigeants arrêtés suite à des violentes échauffourées la semaine dernière. Que pensent certains étudiants du départ de Mohamed Ben Omar? Tarnan Foudey Ahmed a interrogé plusieurs militants de l'organisation que je vous propose d'écouter.
Le départ de Ben est pour nous une satisfaction et nous souhaitons à ce que le nouveau ministre soit à la hauteur surtout de nos exigences et de nos revendications.
Notre attente en tout cas qu'il ait une bonne collaboration entre nous, qu'il tire des leçons par rapport sur les différents événements ou les différents épisodes qui ont conduit en tout cas nos rapports avec ces derniers qui est parti et à être à ces niveaux. Je crois qu'il va prendre note. Nous ne pouvons pas faire un préjugé sur son comportement ou sur quoi que ce soit. Nous souhaitons et nous espérons que ce dernier sera un bon collaborateur, un bon partenaire avec qui on peut en tout cas solutionner le maximum des problèmes de l'enseignement supérieur.
Des propos recueillis par Tarnan Foudey Ahmed. Je vous rappelle que l'USN exige encore la constitution d'une commission d'enquête indépendante sur les événements du 10 avril dernier. Sur cette question, deux points de vue dans ce journal. Tout d'abord, celui de Ibrahim Ado, secrétaire chargé aux relations extérieures du CDUSN.
Je tiens à vous rappeler, c'est les deux points qui figurent sur les préalables qui sont satisfaits, s'agissant de la libération de tous les camarades de détenus et le départ du ministre des Enseignements supérieurs. Nous croyons en tout cas dissiper la suite ou le point le plus saignant qui est la mise en place d'une commission d'enquête indépendante qui va en tout cas situer les responsabilités de cette tuerie sera satisfait. C'est le premier point qui en tout cas touche la sensibilité de toute la communauté nationale et internationale. Ce point-là doit être satisfait avant toutes sortes de négociations. Quand ce dernier sera satisfait, l'Union des scolaires nigériens peut suspendre les mots d'ordre parce que ce n'est pas une question de lever. On ne peut que les suspendre pour pouvoir permettre aux négociations de continuer, pour voir comment ces autorités-là vont se comporter vis-à-vis de l'ensemble des points qui nous ont conduits à engager ce mouvement.
Autre point de vue sur la constitution d'une commission d'enquête exigée par les étudiants, l'ONG Amnesty International, dans un communiqué rendu public hier, s'associe à la demande des étudiants. Joint par téléphone par le studio Kalangu, Samira Daoud, responsable adjoint Amnesty International à Afrique de l'Ouest, explique l'utilité de cette enquête.
Pour que la lumière soit faite sur le dossier de cette personne. Et donc, évidemment, nous demandons que les responsables de ces actes soient identifiés et tenus de rendre des comptes.
À votre avis, est-ce que c'est possible au Niger?
Si les juges saisis de cette enquête peuvent travailler en toute liberté et travaillent de manière totalement impartiale, il n'y a pas besoin de demander aux Nations Unies de venir mener l'enquête. Les critères de neutralité, d'impartialité soient réunis et ça peut parfaitement être conduit par les autorités judiciaires nigériennes. Et que, par exemple, pour les violences policières, Un des éléments qui ferait que ce serait une enquête impartiale et indépendante, ce serait que, évidemment, que ce ne soit pas une enquête interne menée par la police elle-même, mais par une autorité judiciaire.
C'était là Samira Daoud, responsable adjoint Amnesty International à Afrique de l'Ouest. Pour rappel, deux commissions d'enquête demandées par l'Union des scolaires nigériens ont été mises en place pour faire la lumière sur la mort d'un étudiant à Zender. Il s'agit de Laminu Mekanta, décédé le 6 décembre 2011, et celle de Zeyanu, mort à Gaya en avril 2013. Jusqu'à présent, aucune information n'a pour l'instant filtré sur l'avancement du travail de ces deux commissions. Toujours dans le domaine de l'éducation, les trois policiers arrêtés après la dissémination d'une vidéo choc sur les réseaux sociaux ont comparu hier devant le procureur de la République selon nos sources. Dans la vidéo, on pouvait voir des policiers torturant un étudiant en médecine lors de l'intervention du 10 avril dernier des forces de l'ordre sur le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pour clore ce dossier consacré à la crise universitaire, la réaction de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants. Elle se réjouit du remplacement du ministre de l'Enseignement supérieur, Ben Omar, qui est une exigence de l'Union des scolaires nigériens. La structure estime que cette décision est un pas vers la résolution de la crise scolaire. Wesselaman Ransratan, la secrétaire générale de l'APE.
Nous saluons l'esprit du président de la République, du chef du gouvernement, qui, sachant pertinemment que l'avenir de ce pays repose entre les mains de ces jeunes-là, il a pris en considération leur cri de cœur et qu'il a répondu favorablement. C'est vraiment un pas parce que je vous mesurez pas le poids qui pesait sur nous, parents d'élèves, pour pouvoir ramener nos enfants à comprendre qu'il faut dialoguer. Dieu a écouté nos prières, le président de la République a pris ses responsabilités. L'appel que nous lançons du moment où aujourd'hui, en ce qui concerne l'ISN, l'un des préalables est accepté. Je crois qu'il faut revenir sur la table de négociation et qu'on peut travailler en même temps en train de négocier. Parce que nous sommes en fin d'année et chaque jour perdu va peser sur le cursus scolaire des élèves, surtout pour ceux qui auront des examens en fin d'année.
Vous venez là d'entendre Wesselaman Ransratan, la secrétaire générale de l'Association des parents d'élèves au micro de Asumana China. Les forces de défense et de sécurité mixtes composées de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de la douane ont organisé ce matin sous les ordres de la commune d'Agadez une opération coup de poing de lutte contre la vente de l'essence de contrebande dans les rues et les maisons. Le point avec notre correspondant Moussa Maman.
Sur ordre du maire de la commune d'Agadez, les forces de défense et de sécurité ont entamé une vaste opération de saisie d'hydrocarbures vendus dans les rues, dans les concessions et les marchés. Hydrocarbures les plus souvent de contrebande. Les autorités ont réussi à mettre la main sur des centaines de bidons d'essence pour une valeur de 2 millions de francs CFA. Cette mission qui a commencé vers 9h était terminée vers 12h. Selon les autorités de la commune d'Agadez, l'objectif de cette mission était de réduire la propagation des incendies dus à la présence d'hydrocarbures de contrebande dans des endroits publics. Je vous rappelle qu'un incendie a provoqué le 12 avril dernier la destruction de deux boutiques. On avait compté aussi des blessés par brûlure. Et c'est l'entassement de bidons de carburant de façon anarchique qui avait conduit à cette catastrophe. Catastrophe qui a donc conduit les autorités à prendre conscience du risque et à réagir. À terme, elles se proposent de lutter contre l'afflux massif de carburant dans la ville d'Agadez en provenance de l'extérieur du pays. Moussa Maman, depuis Agadez, pour le studio Kalangou.
Autre aspect de cette édition, en bref, 6,6 milliards de francs CFA, soit à 10 millions d'euros. C'est le montant de l'aide budgétaire que la France vient de débloquer en faveur du Niger le 13 avril dernier. Cette aide budgétaire est versée sous forme de subvention. Elle est destinée à accompagner le programme économique et financier du Niger, ainsi que l'apurement d'arriérés accumulés par l'État dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Autre brève, 4 morts, dont 2 enseignants et 2 commerçants. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu le samedi 15 avril dernier à 1 kilomètre de Baleyara sur la route de Loga. Un véhicule de transport commun revenant du marché de Loga a écrasé une moto avec 2 personnes à bord. En sport, en prélude à la journée commémorative de la Concorde le 24 avril prochain, les autorités communales d'Arlita organisent en ce moment un tournoi de football dénommé Tournoi de la paix. Cette équipe du département participe à cette compétition. Les rencontres préliminaires ont déjà été jouées. Les demi-finales sont prévues demain jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017. Ainsi donc, l'équipe de l'administration rencontrera celle de Somaïr et l'équipe de la Cominaca affrontera la garde nationale. La finale aura lieu le 24 avril, jour anniversaire de la fête nationale de Concorde. Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu
à Niamey,
sur la radio Enfani 100 FM et sur la radio alternative 99.4 FM
à Agadez,
sur la radio Nomade FM 101.9 FM
à Arli,
sur la radio Ikokan 95.1 FM
à Difa,
sur la radio Enfani 100 FM
à Dosso,
sur la radio Farah 92 FM
à Tirozirine,
sur la radio Azuru 95.1 FM
à Pilengi,
sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM
à Tilaberi,
sur la radio Tebonsi 97.5 FM
à Maradi,
sur la radio Garkwa 107 FM
à Tawa,
sur la radio Tambara 107 FM
à Zender,
sur la radio Shukra 105.5 FM. Studio Kalangu. Place à présent à la partie magazine de cette édition. De ce soir, elle est consacrée à la méningite de la région de Maradi. Le département de Madarufa a été déclaré hier en épidémie. Cette déclaration est faite sur la base des cas enregistrés la semaine dernière, qui sont de 122, dont 62 en provenance du Nigeria. Pour le directeur régional de la santé publique, les dispositions sont en train d'être prises pour l'organisation d'une vaccination de riposte. Cependant, Dr Kalla Idi précise que cette vaccination est conditionnée par la maîtrise de tous les paramètres. Il est au micro de Mohamed Maman.
On ne peut pas rentrer en épidémie hier et penser commencer la vaccination aujourd'hui. C'est tout un processus. Il faut identifier la cible qui est la plus, même si nous la connaissons, mais quand même il faut l'étudier. La plupart des déjà qu'on a, c'est la cible 5-14 ans qui est plus menacée. Il faut identifier les zones ou bien c'est toute la zone de Madarufa qu'il faut vacciner, ou bien il faut étendre, ou bien c'est seulement les CSI qui sont en épidémie qu'on va vacciner. Tout ça, là, c'est des réflexions qu'on doit faire. Et pour le moment, il n'y a que trois points, Loroka, Danyisa, Ngaloa, qui sont plus concernés, et il y a plus des cas aussi qui viennent du Nigeria, même si avec les cas autochtones, on peut déjà déclarer ces CSI en épidémie. On attend un bout de temps et s'il y a le vaccin, il y a une riposte qui doit être faite incessamment. Mais il faut déterminer la souche. Il faut nous assurer si c'est la même souche qu'au Nigeria. Parce que la semaine passée, nous étions à Zolmi avec les jeunes de Kachina Zamfara qui nous ont confirmé en tout cas que c'est la souche C qui est plus répandue chez eux. Probablement, ça peut être la même chose, mais elle doit être confirmée si nous voulons être sûrs. Nous sommes en contact avec Niamey pour nous assurer de la souche et comme ça nous allons lancer le processus de demande de vaccin. Mais d'ores et déjà, ce que nous devrons commencer, c'est les sensibilisations pour un peu limiter les mouvements.
Docteur, Madarufa a été déclarée une zone épidémique hier. On peut savoir cette semaine comment est l'évolution des cas?
Pour Madarufa, on était à 122 cas, dont 62 cas en provenance du Nigeria et 60 cas pour Madarufa, la zone. Pour toute la région, nous sommes à 222 cas. Vous comprendrez que Madarufa est à plus de la moitié des cas enregistrés. Et ça, c'est depuis le 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que déjà, en une semaine, si on peut avoir plus de 30 cas, c'est beaucoup. C'est une situation vraiment urgente à laquelle on doit prêter beaucoup d'attention.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Restez à l'écoute du Forum du Studio Kalangu. Le Forum du Studio Kalangu, c'est la suite de la série consacrée à la région d'Agadez. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro consacré au paiement de la taxe professionnelle par la société minière de la zone. Le Forum du Studio Kalangu, spécial Agadez, c'est avec le concours des radios partenaires Sahara FM et Nomade FM d'Agadez. Et c'est tout de suite avec Ahamado Moumouni. Le forum de la presse.
L'actualité de la semaine, commentée par le journaliste Nigeri.
Tous les vendredis à 18h15 sur le studio Kalangu. Studio Kalangu, au rythme du Niger.